Comment mieux vivre au XXIe siècle sur Africa Radio.
Cette semaine dans Comment mieux vivre au XXIe siècle, nous sommes en compagnie de Karen Adediranganda. Bonjour Karen.
Bonjour Dianaba.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci, et vous ?
Oui, ça va très bien. Comment éveiller les jeunes consciences afro, surtout quand on a la double culture, qu'on a grandi en France, dans un pays occidental, et qu'on se tient, qu'on vit loin du continent. On va en parler avec vous tout de suite, Karen, mais avant ça, vous allez nous parler un petit peu de vous.
Avec plaisir.
Alors, vous venez d'où ? Quel est votre parcours ?
Alors, je suis née, j'ai grandi au Sénégal,
oui,
où j'ai obtenu mon bac.
Oui.
Je suis d'origine Yoruba et capverdienne.
D'accord.
Donc après l'obtention de mon bac au Sénégal, je suis venue en France pour faire mes études post-bac.
D'accord.
J'ai aussi fait un échange aux États-Unis à Chicago. Et je suis ensuite revenue en France où j'ai poursuivi le début de ma carrière professionnelle.
Vous êtes auteur à l'origine des icônes de Kimia. Alors avant les icônes de Kimia, est-ce que vous étiez déjà auteur ? Est-ce que vous avez déjà des ouvrages à votre nom ?
Alors là non, pas du tout. J'ai déjà écrit un roman, mais je ne l'ai jamais publié, c'était vraiment personnel.
D'accord.
J'étais au lycée à l'époque, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, mais je ne me suis jamais dit que j'en ferais quelque chose de concret.
Eh bien, vous l'avez fait avec les icônes de Kimia, un livre pour les plus jeunes, pour l'éveil des jeunes consciences afro, surtout les jeunes consciences de la diaspora, pour les rattacher à leurs origines, si on peut dire. Qui est Kimia pour commencer ?
Kimia, tout d'abord, ça veut dire la paix.
D'accord.
En Lingala.
En Lingala.
C'est quelque chose que je trouvais beau de faire un jeu de mots, les icônes de Kimia, les icônes de la paix.
Très bien.
Mais Kimia, c'est avant tout ma nièce, à qui je rends hommage, qui nous a quittés.
Donc, c'est beau.
Voilà.
Ah, ouais. Ma paix à son âme.
Merci.
Elle avait quel âge ?
C'était quelques jours après sa naissance.
D'accord. Vous êtes également, avant les icônes de Kimia, à l'origine de la page Afro-Conscience.
Oui,
et
tout à fait.
De quoi il est question sur cette page ?
Alors, en fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé lire.
Oui.
Mais à un moment donné, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a eu une certaine fracture.
Oui.
Je me suis rendu compte que je ne lisais plus. Quand j'ai fait ce constat-là, je venais d'arriver en France.
Oui.
Quand je suis arrivée en France, j'ai été confrontée à des micro-agressions qui m'ont fait me poser des questions sur mon identité. Donc des questions que je ne me posais pas nécessairement lorsque je vivais à Dakar et que je faisais en quelque sorte partie de la norme.
Des agressions verbales, vous voulez dire ?
Oui, des micro-agressions, donc des agressions verbales, des questionnements sur d'où tu viens, enfin, toutes des questions en fait que quand je vivais à Dakar, on ne me posait pas.
Oui.
J'appelle ça des micro-agressions.
D'accord.
Parce que c'est pas... Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Du coup, j'ai recommencé à lire. En même temps que j'avais fait le constat que je ne lisais plus autant qu'avant, j'ai recommencé à lire donc que sur des ouvrages historiques avec des auteurs clés comme Frantz Fanon ou encore Cheikh Anta Diop.
Oui.
Et donc, du coup, j'ai décidé en fait de partager mes recherches sur une page Instagram qui, à la base, a été anonyme. D'ailleurs, elle était anonyme jusqu'à... très récemment,
oui.
Et parce que je me disais que certainement mes recherches devaient intéresser d'autres personnes.
Mmh.
Et donc du coup, petit à petit, je partageais aussi ce que j'appelle des pistes de réflexion.
Oui.
Et la page a pris énormément d'ampleur à ma grande surprise.
Mmh.
Ça n'a jamais été un projet, c'est quelque chose que j'ai fait dans le but de partager. Donc je n'avais pas de plan préétabli.
Mmh.
Et au bout d'un moment, 5000 followers, 10 000 followers, 20 000, 30 000, je réalise que vraiment il y a un manque qui est palpable et qui est réel en fait.
Et du coup, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, c'est ça ?
Sur Instagram, exactement, sur Instagram, Afro-Conscience.
Donc là, on s'adresse à un public un petit peu plus âgé, si on peut dire, que
exactement.
Le public des icônes de Kimia.
Oui, tout à fait, des jeunes adultes et adultes.
Très bien. Et du coup, quand vous avez-vous décidé, à quel moment vous avez décidé de faire cette bascule et de vous adresser à un public encore plus jeune ?
Alors, au moment où la page a pris beaucoup d'ampleur, je me suis dit, en fait, Instagram, c'est bien, les réseaux sociaux, c'est bien, mais comment aller plus loin dans ma démarche ?
Oui.
Je voulais, en fait, pérenniser cette action et je me suis demandé comment le faire, qu'est-ce qui serait le plus pertinent.
Oui.
Et donc, du coup, j'ai décidé, en fait, de me tourner vers les jeunes en me disant que, en fait, moi, j'avais été frustrée de ne découvrir des choses qu'à l'âge adulte.
D'accord.
Et que donc, du coup, ce serait bien de pouvoir transmettre ça à la génération, aux jeunes générations, pour ne pas qu'ils arrivent à un jeune âge en se disant « Ah, mais en fait, je connais pas grand-chose sur mon continent, on m'a pas appris grand-chose sur mon continent à l'école.
Mm-hmm. »
Et donc, du coup, voilà, j'ai décidé de le faire pour les jeunes, c'est ce qui avait le plus de sens pour moi.
Très belle initiative, Karen, et on se rend compte finalement que ça parle de vous, mais on se reconnaît également dans votre initiative, dans votre démarche et même dans votre parcours. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé votre parcours, parce que forcément, ça parle de votre expérience, une expérience qui doit faire forcément écho chez certains, chez certaines jeunes adultes, adultes.
Votre démarche initialement concernait les personnes de votre âge et plus encore les jeunes adultes et les adultes. Et finalement, c'est quand vous avez souhaité aller plus loin dans votre démarche que vous vous êtes focalisé sur cette cible plus jeune.
Je voulais en fait pérenniser cette action et je me suis demandé comment le faire, qu'est-ce qui serait le plus pertinent. Oui. Et donc du coup, j'ai décidé en fait de me tourner vers les jeunes en me disant que en fait moi j'avais été frustrée de ne découvrir des choses qu'à l'âge adulte.
D'accord.
Et que donc du coup, ce serait bien de pouvoir transmettre ça aux jeunes générations pour ne pas qu'ils arrivent à un jeune âge en se disant « Ah mais en fait, je connais pas grand-chose sur mon continent, on m'a pas appris grand-chose sur mon continent à l'école. » Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de le faire pour les jeunes, c'est ce qui avait le plus de sens pour moi.
Oui, c'est vrai que malheureusement, c'est un constat qui est assez fréquent, en tout cas pour les jeunes adultes qui sont ici de la double culture. C'est vrai qu'on constate quand même un manque de culture et un manque de proximité avec ses origines. Je parle aussi pour mon cas. Et du coup,
c'est une problématique, c'est une question qui tient à cœur de beaucoup de parents. Il y a beaucoup de femmes notamment qui nous écoutent et qui ont à cœur justement d'offrir cette éducation, cette afro-éducation, si je peux me permettre de dire, à leurs enfants. Les icônes de Kimia, justement, vous ciblez quelle tranche d'âge chez les jeunes ?
Alors, moi, je dis à partir de 10 ans, mais on me fait beaucoup ce reproche.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a pas mal de parents qui m'ont dit, mais vous dites à partir de 10 ans, mais moi, ma fille, elle a 7 ans et ça va très bien en lecture accompagnée, bien évidemment.
Oui.
Et y a même des jeunes enfants, du coup, parce qu'il y a des illustrations qui sont assez colorées et parlantes, qui arrivent à trouver les noms des personnages juste en regardant les images. Donc, moi, je dirais... Un libraire conseillera à partir de 7 ans.
D'accord.
Et moi, je conseillerais à partir de 5 ans, mais toujours en lecture accompagnée, bien évidemment. C'est pas quelque chose qu'on met juste entre les mains d'un enfant, tout cas, tant qu'il n'a pas 10 ans.
En tout cas, la force des icônes de Kimia, c'est son aspect participatif. C'est un point fort qui justifie son succès, justement.
Oui, oui, tout à fait. C'est le côté interactif, en fait.
Et comment vous est venue l'idée ?
J'ai fait un constat, c'est que en fait, en général, on se concentre sur des personnages historiques et sur des dates clés, et qu'on n'en tire pas nécessairement les leçons que ces personnages ont voulu nous donner, en fait.
Oui.
Et donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de juste présenter des personnages historiques avec des dates clés, il faudrait que les enfants puissent en tirer des leçons.
Des enseignements.
En tirer des choses qu'ils puissent appliquer dans leur vie au quotidien.
Oui.
Et en fait, il faut qu'ils se questionnent. Il ne faut pas juste qu'ils lisent et que ce soit passif.
Oui.
Donc, du coup, je me suis dit, à la fin de chaque chapitre, il faut que Kimia pose des questions au lecteur en lui disant « Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as retenu de ce combat-là ? Qu'est-ce que pour toi ça veut dire tel ou tel mot ?» Et donc, du coup, voilà.
Comment vous avez sélectionné les icônes ?
Dans le flux de mes recherches sur Afroconscience, j'avais commencé à avoir une base de données, à répertorier dans une base de données plus de 120 icônes.
Comprenez, personnalités africaines.
Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je voulais qu'il y ait autant d'hommes que de femmes pour que les garçons et les filles puissent s'identifier.
Oui.
Ensuite, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait toutes les périodes, donc de la période impériale à la période contemporaine. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait... qu'il y ait différents pays. Donc, du coup, j'ai fait le découpage de cette manière-là.
Ça demande un long travail, ça.
Oui, quand même. Le choix des icônes a été dur. Et puis, je me suis dit que c'était aussi important de mettre des figures emblématiques telles que Sheranta Diop ou alors Lumumba ou Sankara, parce que ce sont des noms qu'on connaît,
qui reviennent souvent, effectivement.
Mais on ne sait peut-être pas nécessairement ce qu'ils ont accompli au cours de leur vie.
Oui.
Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même commencer par des figures connues. Ensuite, je vais prendre aussi des figures un peu moins connues, comme par exemple Funmilayo Ransome-Kuti, qui était la mère de Fela Kuti, ou Sedong Ongbe encore du royaume d'Ahomey. Donc des têtes d'affiche et des personnages un peu moins connus, mais tout aussi importants.
Et du coup, c'est un travail que vous avez effectué seul, ce travail de recherche
seule.
De classification.
Oui, tout à fait.
On va également citer l'illustration.
Tout à fait. J'ai cherché un illustrateur. Je voulais que ce soit un illustrateur du continent.
Oui.
Donc, j'ai souhaité collaborer avec Félix Foukoua. C'est un jeune Camerounais autodidacte qui habite au Cameroun.
D'accord.
D'ailleurs, il a fait la mascotte de la CAN. Ah. Il a été sélectionné. Et du coup, on travaille en étroite collaboration. Donc, ça veut dire que moi, je lui envoie les icônes que j'ai sélectionnées, ce que je veux qu'ils apparaissent à travers l'illustration. Mmh. Et ensuite, on discute et voilà.
Ouais. Un très bon travail d'équipe, Karen, en tout cas. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail ou ça a été facile pour vous de vulgariser et que ce soit accessible, du coup, le langage soit accessible aux plus jeunes?
Ça a été le plus difficile, en fait, parce que quand on veut parler de colonisation, quand on parler de mots, enfin de concepts aussi, entre guillemets, compliqués, mm-hmm. il faut pouvoir amener le jeune lecteur à une certaine compréhension sans avoir de ressentiment. En fait, il faut être détaché totalement oui. de ses émotions pour pouvoir faire un travail pédagogique. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué, comme expliquait la conférence de Berlin
oui.
à un jeune enfant. Donc, oui, la vulgarisation, ça a été assez compliqué.
Oui.
Et je suis assez contente parce que quand je fais des ateliers avec les enfants, ma première question quand je les vois, c'est « Est-ce que vous avez compris le livre ?» Et ils me disent « Bah oui, moi j'ai compris, hein, c'était simple. » Et je suis comme « Ok, super
!» Mais c'est une fierté ça.
Oui.
En plus, c'est vrai qu'on dit que on dit généralement que pour savoir si on maîtrise un concept, il faut l'expliquer aux enfants. Donc voilà, vous ferez une très bonne institutrice, Karen. Alors, quel genre de retour vous avez justement des plus jeunes? Vous me dites qu'ils vous disent en général qu'ils ont compris les ouvrages, mais est-ce que vous avez échangé, vous avez eu des dialogues avec ces enfants? Qu'est-ce qui revient le plus souvent de leur côté?
Alors, du côté des parents, comme c'est un livre qui se fait aussi en lecture accompagnée,
bien sûr, oui.
on me dit que le livre est très pédagogique.
Oui.
Là, récemment, j'étais au Sénégal.
Oui.
J'ai fait un atelier avec des enfants de 9-10 ans.
Mmh.
Honnêtement, j'étais complètement bluffée par la compréhension qu'ils en ont fait.
Ça fait plaisir.
Donc, du coup, comme je vous disais, ils me disaient qu'ils avaient très bien compris, qu'en fait, ils sont égaux, qu'ils n'ont pas à être complexés oui. par rapport aux autres. Mmh. Donc, ils me faisaient ce genre de retour. Vraiment, j'étais émerveillée.
C'est très encourageant et c'est effectivement très, très positif.
Exactement.
Alors, du coup, on revient sur ces termes que vous avez réussi à vulgariser aux plus jeunes. Et vous allez aussi nous les définir en vos termes. C'est quoi l'afro-positivisme ?
L'afro-positivisme, l'afro-optimisme, il a dominé du coup les années 60 avec les indépendances.
Oui.
Je pense que l'afro-optimisme, c'est juste la confiance en l'avenir.
D'accord.
D'autre part, je pense que personne n'est dans un état de positivisme ambiant.
Mmh.
Je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut être constant, surtout quand on est confronté aux réalités quotidiennes
oui.
De la vie en Afrique et toutes les difficultés qui s'en suivent. Mais je pense que c'est avoir confiance en l'avenir, se dire que c'est possible, en fait, y croire. Avec ça, ses limites.
Oui.
Ça, tout ça, ses limites. Mais je pense que moi, en tout cas, quand je me définis en tant qu'afro-optimiste, je me définis comme une personne qui croit en l'avenir de l'Afrique, en ses enfants, en ses capacités, en ses possibilités.
C'est quoi le colorisme ?
C'est une notion assez complexe,
oui.
mais en fait, dans le livre, j'ai expliqué le colorisme aux enfants en remontant à ses origines. C'est-à-dire
oui.
que le colorisme est né pendant la période esclavagiste où il y avait une distinction entre les esclaves qui étaient foncés de peau et les esclaves qui étaient plus clairs de peau,
oui.
entre ceux qui travaillaient au champ et ceux qui travaillaient du coup dans la maison. Aujourd'hui, ça a été détourné, on va dire, d'une autre manière, de telle sorte que très souvent, les personnes qui sont noires, claires de peau, entre guillemets, on va considérer, et parfois c'est souvent vrai, qu'ils ont plus d'avantages que des personnes qui vont être plus foncées de peau.
Oui.
Et va s'en suivre les dépigmentations de la peau et tout ce qui est dangereux pour la oui. santé. D'un côté, on va beaucoup pointer du doigt ces femmes qui le font, mais on ne va pas remonter aux causes.
Oui.
Pourquoi est-ce que ça se fait ? Donc en fait, le colorisme, c'est juste, je dirais, une discrimination inutile entre des personnes noires de peau, entre des teintes, de la teinte la plus foncée à la plus claire.
Il y a d'autres termes, celui d'intégrité, par exemple ?
À l'intégrité, j'ai voulu en parler pour faire une corrélation avec la corruption, parce que c'est oui. quelque chose qui est quand même très présent.
Oui.
Et du coup, être intègre, c'est pour moi ne pas se laisser corrompre, rester fidèle à ses valeurs.
Et le panafricanisme, du coup ?
Le panafricanisme, c'est vraiment... je pourrais en parler pendant 10 minutes, parce que je pense en fait que c'est très compliqué de résumer le panafricanisme.
Oui.
Mais en gros, Je dirais que c'est une coopération des États d'Afrique.
D'accord.
Voilà. Et il y a des leçons à tirer positives du panafricanisme, mais il y a aussi des contre-leçons à tirer du panafricanisme. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout enjoliver, tout n'était pas nécessairement tout beau, tout rose. Mmh. Et justement, on doit tirer des leçons et des contre-leçons de, tout, de cette notion-là pour pouvoir aller de l'avant.
Lequel de ces mots, du coup, évoqués résonne le plus en vous ?
L'intégrité.
L'intégrité, très bien. Alors, c'est des mots-clés qu'il faut enseigner à nos enfants, selon vous, et qui s'en imprègnent. Et qu'est-ce que ça pourrait changer en eux, justement ?
Ben, je pense que déjà, avoir conscience de ces notions très tôt, ça peut permettre un déclic, un éveil. Après, c'est propre à chacun, mais... Je pense en fait que les mots sans exemple ne sont pas nécessairement parlants. Mmh. C'est pour ça qu'à chaque fois, les mots ont été rattachés à un personnage.
D'accord.
Par exemple, intégrité, ça a été rattaché à Thomas Sankara. Qu'est-ce que être intègre ? À travers Thomas Sankara, vous pouvez découvrir c'est quoi vraiment l'intégrité et ainsi de suite, le colorisme avec Frantz Fanon, etc.
D'accord, très bien. C'est pas facile quand on est parent, justement, d'expliquer toutes ces notions. D'ailleurs, dans votre ouvrage, dans le tome 1 des icônes de Kimia, nous pouvons retrouver un glossaire qui définit les termes et qui facilite une fois encore le travail et la lecture pour les parents et la compréhension des parents et de leurs enfants. On va parler justement du rôle des parents dans la transmission de l'histoire et des cultures. Comment, en tant que parent, parler et créer un attachement à sa culture d'origine chez l'enfant ? Selon vous ?
Selon moi, le plus important, en fait, c'est la discussion.
Oui.
Et en fait, chez nous, les Africains, il y a beaucoup de pudeur.
Oui.
Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on fait, c'est-à-dire de l'enfant vers le parent ou même du parent vers l'enfant.
Oui.
Mais le fait de poser des questions ou en tout cas d'essayer de comprendre d'où on vient en discutant tout simplement avec ses parents, avec ses aïeuls, ses grands-parents, c'est déjà une richesse immense, en fait. On a l'impression que parfois, il faut faire mille et une choses pour connaître notre culture, alors que non, il faut juste s'asseoir et discuter.
C'est vrai, c'est tout à fait juste et je me projette aussi bien dans ces situations. Vous êtes née au Sénégal, vous y avez grandi durant 18 ans, vous êtes d'origine capverdienne et yoruba. Du coup, vous, quand vous avez eu cet éveil de conscience, est-ce que vous êtes retournée auprès de vos proches pour chercher aussi des réponses ?
Non, non. Pas du tout.
Vous avez fait vraiment un travail...
J'ai fait mes recherches toute seule.
Toute seule,
ouais. Aujourd'hui, il y a Internet. Hein,
quand, oui, c'est
quand
vrai.
Parfois, on me pose des questions, je me dis, Google est ton ami, en fait. La bibliothèque est là, il y a des librairies en pagaille. Si tu veux savoir quelque chose, tu cherches.
Bah, attention aussi à Google. Hein.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous parvenez à maintenir le lien avec vos différentes origines aujourd'hui ?
Alors, oui et non. Oui, parce que bah, du coup, je suis née à Dakar. Je retourne quasiment tous les 6 mois.
D'accord.
Il faut savoir que mes grands-parents ont émigré au Sénégal très, très tôt. Donc, en fait, j'ai une forte attache avec la culture sénégalaise. D'ailleurs, je parle Wolof. C'est, c'est la langue que je parle le mieux.
Oui.
Et donc, du coup, je n'ai pas connu nécessairement mon grand-père qui était béninois, donc yoruba.
Oui.
Mais par contre... tout mon côté maternel capverdien, oui, ma grand-mère est là, donc c'est beaucoup plus facile en termes de transmission, de pouvoir discuter. Je suis allée au Cap-Vert aussi, donc voilà.
Et comment vous projetez-vous avec des enfants ? Sur quelle ligne vous comptez les éduquer ?
Bah déjà, je vais essayer de leur donner très tôt le goût de la lecture, parce que c'est quelque chose qui se perd, mais je pense qu'il faut commencer très tôt. Je vais aussi leur faire aller dans leur continent d'origine. De toute façon, j'aspire à m'y installer durablement très prochainement.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et si mes parents, je l'espère, sont toujours là,
on l'espère
ils vont beaucoup discuter avec leurs grands-parents.
Le dialogue, la communication, c'est la clé de tout. Hein.
Exact.
C'est vrai qu'on n'ose pas trop en parler à nos parents, nos grands-parents, aux aînés de la famille. Pourtant, nous devrions. Hein. Moi, je sais que passé la trentaine, il y a encore beaucoup de choses que j'apprends de leur part. Karen Adedirang Gandar, quelle suite à donner aux icônes de Kimia ? Quels sont vos projets pour les mois et l'année à venir surtout ?
Le tome 2 normalement va sortir fin de premier trimestre 2022.
D'accord.
Et ce sera un focus sur la période impériale, puisque le tome 1 fait une rétrospective de la période impériale à la période contemporaine. Les prochains tomes ce sera des focus sur chaque période. Donc le tome 1 ce sera un focus sur la période impériale.
D'accord.
Le tome 3 ce sera un focus sur les résistances, parce que souvent on oublie que les oppresseurs capitule, il ne libère jamais.
Oui.
Et donc, du coup, mettre en lumière toutes ces personnes qui se sont battues pour l'indépendance et ainsi de suite. Je ne vais pas tout dire quand même.
Bah oui, un peu de suspense, un peu de surprise. Toujours illustré par Félix Fauquois.
Toujours.
Très bien. Très belle collaboration. Afro Conscience présente donc les icônes de Kimia. Le tome 1 à partir de 10 ans, à partir de 7 ans, diront certains. Mmh. Lecture accompagnée, écrite par Karen Adediranganda. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci de m'avoir accueillie.
Avec plaisir. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ?
C'est l'importance pour les parents,
oui,
d'emmener leur enfant à la lecture.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets qui émanent de notre génération qui ne sont pas nécessairement visibles. Alors moi, je suis en auto-édition.
Oui.
J'ai la chance, à travers ma page InfoConscience, d'avoir quand même une communauté qui est assez soudée et visible. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives qui ne sont pas vraiment visibles. Alors quand il y en a qui le sont, vraiment, on a besoin du soutien de la communauté pour pouvoir aller plus loin.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, on le fait pour eux, pour nous, pour nos enfants. C'est un projet souvent qui nous dépasse,
oui,
qui est plus grand que nous.
Mm.
Et donc, du coup, il faut vraiment que la communauté nous aide à le porter.
La communauté vous entend. La communauté vous entend. Vous avez d'autres projets ou objectifs similaires en rapport avec l'afro-conscience?
Oui, en fait, j'aimerais bien décliner du coup les icônes de Kimia et les prochains tomes en jeu de société.
Ah.
Pourquoi pas puzzle? J'y travaille. On verra ce que ça va donner.
Ah, bah, très bien, très intéressant. On aimerait bien voir ça, tiens. On vous souhaite plein de réussite dans vos projets, Karen. Et pour ceux qui sont concrets, donc les icônes de Kimia, où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage et où est-ce qu'on peut retrouver davantage d'informations vous concernant?
Retrouvez les différents points de vente des icônes de Kimia sur www.afro-conscience.com. Retrouvez-le sur amazon.fr. Retrouvez-le à la librairie Tamery dans le 10e arrondissement de Paris et au Sénégal dans tous les points de vente des librairies aux 80, à la librairie de quartier Plume du Monde, en Côte d'Ivoire chez Afidi Atelier. Et
super. Bah écoutez, au plaisir de vous recevoir à nouveau dans les studios d'Africa Radio. Karen, merci beaucoup.
Merci à vous.